Bonjour à chacun, à chacune. Quelle grâce d'avoir la possibilité de nous retrouver dans la maison de Dieu. C'est une bénédiction. Nous allons ce matin partager un sujet qui est très sérieux. C'est toujours sérieux. Mais à des moments, ça interpelle un petit peu plus que d'autres. On va faire plusieurs lectures. On va en faire une dizaine, très courte. Mais c'est pour que nous nous souvenions bien que le Seigneur Jésus insiste beaucoup sur ce sujet. Proverbe chapitre 8, verset 34. Proverbe chapitre 8, verset 34. Si vous êtes de passage, soyez les bienvenus dans l'Assemblée. Proverbe chapitre 8, verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute. Proverbe chapitre 8, verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, pas chaque dimanche, hein, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Il vous plaisent ces deux versets? Matthieu 24, 42. Matthieu 24, 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Chapitre 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chapitre 26, verset 40. Chapitre 26, Ésaïe 26, 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Marc, chapitre 13, Marc, chapitre 13, verset 32. « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. » Luc 21, je me doute que vous avez dû comprendre le sujet. Luc 21, verset 34. Luc 21, 34. « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Amen. Luc, 1 Corinthiens 6, 13. On aurait pu s'éviter ces lectures, mais je pense que c'est important. Elles sont là, elles sont écrites, comme disait une prophétie, Dieu parle. Oui, Dieu parle parce qu'il a des choses à nous répéter, à nous dire, et ça c'est salutaire. Des chrétiens seront prêts parce que justement ils auront été interpellés par ces versets. Apocalypse 3, verset 3. Apocalypse 3, verset 3, j'ai du mal à l'écrire. Apocalypse chapitre 3, verset 3. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et un dernier texte, Apocalypse 16, verset 15. Apocalypse 16, verset 15. Vous avez vu, et c'est pas, il y a d'autres textes. Vous avez vu combien Jésus insiste. Apocalypse 16, 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. J'ai terminé volontairement avec celui-ci, parce qu'il y a une bénédiction dans le fait de veiller, heureux celui qui veille. Est-ce que vous êtes heureux de veiller? Alors on va prendre un dernier texte dans le Deutéronome. Là, c'est vraiment le verset clé de cette prédication. Deutéronome, chapitre 4, c'est le verset le plus important. Si on en avait pris un, ça aurait été celui-ci. Dernièrement, j'étais dans une église et avant le culte, il y a une vingtaine d'enfants qui sont venus avec leur Bible me voir. Et ils m'ont dit, Monsieur Go, donnez-nous un verset. Écrivez-le sur la page de garde de notre Bible. Ils étaient mignons, ces enfants, ils voulaient un verset de la Bible. Voilà. Et je leur ai donné ce verset à tous, Deutéronome chapitre 4, verset 9. Donc je sais où il se trouve à force de l'avoir écrit. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement, lisons-le consciencieusement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies ces choses et que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Je le relis, s'il vous plaît. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Amen. Nous avons vu, je crois, il y a deux dimanches, ce qu'était une véritable piété. Dimanche dernier, nous avons vu quels seraient ceux qui sont du mauvais côté de la porte, quand Jésus dit « plusieurs chercheront à rentrer, ne le pourront pas ». Et nous avons vu quelle était cette catégorie de chrétiens qui ne seront pas prêts le jour où Jésus va venir. Ce matin, nous allons voir cette instruction qu'il faut prendre tous au sérieux. Viendriez-vous pour la première fois ce matin dans un lieu de culte, vous devez vous occuper de votre âme. Vous êtes là depuis 40 ans ou 50 ans, vous devez continuer à vous occuper de votre âme. C'est quelque chose de sérieux, je ferai un appel tout à l'heure, ça sera entre vous et Dieu, surtout ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui ont une vie spirituelle très 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 désordonnée. Vous devez pouvoir répondre quand le Seigneur pose une question ou quand le Seigneur fait un appel, c'est la moindre des politesses de pouvoir répondre. Veillez sur votre âme. Dans la prière dominicale, vous savez, le Notre Père, Jésus nous demande de prier que nous puisions chaque jour le pain quotidien dont nous avons besoin. Un chrétien, il a besoin chaque jour de se nourrir. Vous êtes d'accord? Peut-être que vous n'en êtes pas conscient, peut-être que vous ne le réalisez pas vraiment. Quand je vois comment on bichonne nos corps, je suis peiné de voir qu'on ne bichonne pas autant cette âme qui est éternelle, alors que le corps, lui, il est quand même passager. Ça ne peut pas être plus clair. Vous savez, il y a des versets, il faut des explications. Moi, je vois avec les stagiaires, il faut revenir, il faut expliquer le texte, le contexte, etc. Mais là, ça ne peut pas être plus clair. Veille attentivement sur ton âme, non pas trois fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Veille attentivement tous les jours, pas les jours où tu as beaucoup plus de temps. Il y a des jours où on a plus de temps que d'autres. Oui ou non? Il n'y a pas des jours où on a plus de temps? Il n'est pas dit veille sur ton âme quand tu vas bien, quand tu es dans la souffrance, eh bien, tu vois. Tous les jours, c'est tous les jours. Il y a des jours faciles, il y a des jours difficiles, il y a des jours de bonheur, il y a des jours de détresse. C'est vrai ou c'est pas vrai? On est tous à la même enseigne. Il y a des jours de vacances, il y a des jours où on n'est pas en vacances, où on travaille. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, c'est tous les jours. Ne commençons pas à dire, mais moi, j'ai pas le temps. Écoutez, si nous n'appliquons pas ces choses aussi solennelles, les choses de Dieu, on les a lues. Elles sortiront de notre cœur. Vous allez me dire, non, pas du mien. Écoutez, si Dieu dit que si nous ne veillons pas tous les jours sur notre âme, ces choses sortiront de notre cœur et qu'on finira par les oublier, c'est ce qui se passera. Et beaucoup de croyants ne sont pas parmi nous ce matin ou dans les autres églises de la ville ou du pays parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux ce verset. Vous êtes d'accord avec moi? Nous prions tout le long de la semaine pour que le Seigneur nous parle, pour que nous puissions vraiment faire le point. Et je voudrais vraiment ce matin que que vous compreniez tous, que nous comprenions tous, comme je viens de le dire, que vous soyez chrétien de longue date, peut-être vous venez pour la première fois dans ce lieu, peut-être que vous entendez l'évangile pour la première fois, vous voulez savoir ce qu'est la vie chrétienne, vous dites, c'est quoi un chrétien, c'est quoi une église évangélique, eh bien vous allez comprendre, vous allez comprendre. En tous les cas, si vous voulez entendre la vérité, il vous faut entendre celle-là, que vous devrez et que vous devez veiller sur votre âme. Mon âme, peut-être que vous vous dites, mais moi, mon âme, ah mais j'ai jamais réfléchi que moi j'avais une âme. J'ai un ordi, j'ai une voiture, mais j'ai pas fait attention que j'avais une âme. Il y a des gens, ils pensent pas à leur âme. Si les gens pensaient à leur âme, toutes les églises de notre pays seraient pleines. C'est pas vrai? Toutes les églises du monde. Est-ce que vous avez réfléchi à votre âme? Peut-être que vous dites, mais en quoi il nous parle? Je parle en français. Mais il y a des gens, ils sont tellement étonnés qu'on leur demande de s'occuper de leur âme. Mais oui, vous êtes dans un lieu de culte et c'est tout à fait normal qu'on vous parle de votre âme. Vous aviez peut-être envisagé qu'on vous parlerait de travail social? Non. Dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on s'occupe du salut des perdus et d'édifier ceux qui ont obtenu le salut en Jésus-Christ. Après, s'il y a du social, s'il y a tout ce que vous voulez, ce ne doit être que la conséquence de la foi qui fait que des œuvres en découlent. Mais l'église du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une œuvre sociale. L'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une œuvre spirituelle. Et il faut que nous le compreniez bien. Vous avez une âme et votre âme vous sera un jour redemandée. On le dit des fois, tiens, il a rendu l'âme. Eh oui, mais c'est ça, c'est une expression biblique. C'est une expression qui tient debout. Il a rendu l'âme parce qu'un corps sans âme, il est mort. Et lorsqu'un chrétien ne veille pas sur son âme, sans qu'il ne s'en rende compte, même s'il était très sérieux le dimanche matin, s'il ne veillait sur son âme que le dimanche matin, petit à petit, son âme dépérit. Petit à petit, insidieusement, cette âme va se dessécher. Vous priez pour que Dieu vous parle? Est-ce que ça vous arrive de prier pour que Dieu vous parle? Ça vous arrive? Voilà. Un chrétien qui ne prie pas chaque jour est un chrétien qui perdra la communion avec Dieu. Peut-être c'est votre cas. Rappelez-vous ce que vous viviez au début de votre conversion. Peut-être que vous aimiez la prière. C'était une joie. Et petit à petit, ce n'est plus devenu une joie, c'est devenu un devoir. Il faut prier. Alors d'accord, je le fais parce que c'est écrit, il faut prier. Mais il n'y a plus ce plaisir de vouloir être en communion avec Dieu, petit à petit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris au sérieux cette instruction. C'est pas ce que vous pensez qui est important, ça je le dis assez souvent. C'est ce que Dieu dit. Si Dieu dit, veille attentivement sur ton âme tous les jours, c'est que c'est sérieux. Vous le croyez que la parole de Dieu, c'est quelque chose de sérieux? Mon âme, on a quelqu'un qui disait, ah, mon âme bénit l'Éternel. Et une sœur, c'est de la plagiat, hein, elle recopie. C'est bien? Est-ce que c'est bien de reprendre les textes bibliques? Mais c'est excellent, c'est ce que Dieu nous demande de faire. D'ailleurs, hein, David, il prie. Vous connaissez le psaume 23? Hein? Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 23? L'Éternel est mon berger? Allez, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a au cœur du psaume 23? Il y a un verset sur l'âme. Qu'est-ce qu'il dit sur l'âme? Voilà. Vous l'avez? Ce verset, là, au cœur de ce psaume, il y a une expression de David. Il vit quelque chose avec Dieu. Est-ce que vous pouvez le dire ce matin? Ce n'est pas des questions pièges. C'est parce que c'est pour que vous puissiez vraiment faire le point avec le Seigneur. Est-ce que vous pouvez ce matin dire, il restaure mon âme? David est en train de... Qu'est-ce qu'il fait là? Il loue, il prie, il adore Dieu, il est en train d'exprimer sa reconnaissance, enfin, il s'adresse à Dieu. Et dans cette prière, il dit, le Seigneur restaure mon âme. Et les quatre mots les plus importants du psaume, ce sont ces quatre mots. Parce que Dieu ne peut pas être notre berger s'il ne restaure pas notre âme. Est-ce que vous le comprenez? Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Si vous vous identifiez au psaume 23 et que vous ne vous appliquiez pas à restaurer votre âme, vous vivez dans l'illusion. Ce psaume, il est valable si quelqu'un, tous les jours, fait en sorte de nourrir son âme, de se restaurer. Si un chrétien ne le fait pas, si un chrétien ne s'applique pas ce psaume-là, ne le lisez plus, ça ne sert à rien. Je vous le dis peut-être d'une manière pas tellement intelligente, mais si chaque jour vous ne veillez pas sur votre âme, si vous ne vous restaurez pas, ce psaume n'est pas pour vous. C'est comme ça. Et c'est peut-être joli, c'est poétique peut-être. Parce que la loi de l'Éternel, c'est David qui le dit ailleurs, la loi de l'Éternel restaure l'âme. Comment je lis? Comment j'ai lu ces textes tout à l'heure? Comment je lirai demain matin le chapitre qui m'intéresse ou que je suis en train de lire dans ma lecture mécanique? Est-ce systématique? Comment je vais le lire, ce texte, que ça vient de la parole de Dieu? On va voir tout à l'heure toutes les expressions de la Bible qui nous montrent que notre âme, elle a du souci. Leur âme était languissante. Il y en a, on va voir quelques expressions où il nous est parlé de l'âme. Ça, j'ai trouvé ça avec une concordance. C'est très facile à trouver. Mais voilà, il restaure mon âme. Alors, je nous pose une question. Notre âme est-elle restaurée? Hier, j'ai prêché un mariage et je comparais, bien sûr, la construction d'un foyer à la construction d'une maison. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est dans la parole de Dieu. Mais justement, c'est valable aussi. Votre maison spirituelle, comment est-elle? Parce qu'une maison, ou elle est en bon état, ou elle n'est pas en bon état. Elle n'est pas en bon état un jour, votre maison est en mauvais état et en ruine le lendemain. 3 jours après, si vous passez devant votre maison, si on passe devant votre maison, ou elle va bien ou elle ne va pas bien, votre maison. Vous ne pouvez pas dire un jour, mon âme est en ruine aujourd'hui, mon âme est restaurée demain, etc. Une maison, ou elle est en bon état, ou elle est en mauvais état. Oui? Bon. Je reviens au corps. Le corps, on s'en occupe. Est-ce que vous vous en occupez de votre corps? De la maison, vous vous en occupez? Est-ce que vous aimez que votre maison soit bien propre, bien rangée? Est-ce que c'est bien? Oui. Le corps, on s'en occupe. Vite, une petite douleur. Docteur, docteur, vite. L'IRM, ça ne suffit pas un scanner. Ah, ce docteur, j'ai pas confiance. Un autre, et vite. Vous avez vu comment on s'occupe du corps? Oui ou non? Hein? Vite, vite, je vais changer de mutuelle. Je vais être bien remboursé. Le corps, c'est impressionnant comment on s'en occupe. Hein? Bon. Et combien de chrétiens ne s'occupent pas de leur âme? Je vous choque. Ils ne réalisent pas, justement, comme je le disais tout à l'heure, que c'est important d'avoir une communion avec le Seigneur. Et je ressens bien dans mon esprit que plusieurs parmi nous ne sont pas soucieux de cela. Vous n'êtes même pas soucieux d'y penser. Vous savez, il y a un texte dans les Romains où il dit « Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu ». Il y a des gens, ils ne s'en soucient pas. Vous les croiseriez dans la rue, vous leur diriez « Mais est-ce que vous pensez à votre âme ?» Et vous direz ce que je vous ai dit tout à l'heure, « Mais c'est quoi l'âme ?» Ils ne savent même pas qu'ils ont une âme. Les ténèbres s'épaississent tellement que les gens ne s'en rendent même plus compte. Mais le problème, c'est que beaucoup même de chrétiens ne réalisent pas qu'ils ont besoin d'une véritable communion avec le Seigneur. Ils ont le culte le dimanche et ils s'imaginent que ça suffira, comme les vierges folles qui s'imaginaient que avoir un tout petit peu d'huile, ça suffisait. Beaucoup de personnes en sont là aujourd'hui. La parabole des vierges, c'est pas nous qu'on l'a inventée. C'est quand même Jésus qui l'a racontée pour expliquer comment seraient les chrétiens, la majorité, la moitié des chrétiens, puisqu'il y en a 5 de folles et 5 de sages, lorsque Jésus reviendrait. Et tout ça, on s'est fait piéger par la routine, l'habitude. On se dit, voilà, moi j'ai une église, moi le dimanche je vais à l'assemblée. Mais est-ce que vous pouvez ce matin dire, oh oui, ma maison, elle est restaurée? Oui. Je me suis occupé à restaurer ma maison matériellement et je comprends un petit peu ce que ça veut dire restaurer son âme. Est-ce qu'elle est en ruine? Est-ce que mon âme est en ruine? Est-ce que mon âme ne va pas bien? Alors je vous pose des questions peut-être gênantes, mais enfin il faut quand même les poser. Qu'est-ce que vous pensez de votre relation avec Dieu? Vous ne parlez pas à votre voix. Mais répondez-vous. Répondez-vous sérieusement. On peut prendre 2 secondes de silence. Que pensez-vous de votre relation avec Dieu? Que pensez-vous de votre communion avec Dieu? Êtes-vous satisfait? Alors, bien sûr que tout le monde va dire non. On veut tous une meilleure communion avec Dieu. C'est évident. Oui ou non? Moi, si vous me dites est-ce que vous êtes satisfait, je dirais non. Je veux une meilleure communion avec Dieu. Ça ne me suffit pas ce que j'ai. Mais c'est une chose d'être en marche et de vouloir faire des progrès. Ça n'est une autre. De quand même de prendre conscience au travers de la question que je suis en train de me poser, est-ce que vraiment j'ai compris ce qu'était la communion avec le Seigneur? Il y a des chrétiens pour qui la communion avec Dieu est à peu près pareille que la communion avec leurs voisins. Bonjour, bonne journée, fera beau, bonne journée monsieur. Il y a des chrétiens, leur communion avec Dieu se situe à ce niveau. Bonjour, bonsoir. Vous allez dire, Monsieur Gou, il exagère. Est-ce qu'on peut dire d'un chrétien pour qui les relations avec Dieu sont aussi étroites qu'il s'occupe de restaurer son âme? Moi, je ne le crois pas. Un chrétien qui bâcle son temps de communion avec Dieu n'est pas un chrétien qui veille attentivement sur son âme. Que personne ne conteste ce que je suis en train de vous dire. Non pas parce que je n'ai pas envie d'être contesté, ça m'intéresse égal. Mais parce que ça serait grave que vous contestiez une vérité aussi évidente. On devrait veiller sur son âme comme une maman veille sur son enfant lorsqu'il est malade. Voilà comment on devrait veiller. On veille sur son appartement. Il y a des gens, quand ils partent en vacances, ah, « Monsieur Go, vous ne connaissez pas un jeune qui pourrait venir? Je m'en vais 8 jours. J'aimerais qu'il y ait quelqu'un dans la maison. » Est-ce qu'ils ont raison? Ben oui, c'est leur façon de voir, après tout. Ce n'est pas interdit. Mais on voit qu'ils veillent sur leur maison. Ils se font attention. Ils ont raison. Il y a des gens, ils veillent sur leur voiture. Si certains chrétiens veillaient sur leur âme, comme s'ils veillent sur leur voiture, dès qu'il y a une rayure sur la voiture, oh là, catastrophe. Quelle catastrophe! On n'en dort pas. On est malheureux. Mais, comme me disait une fois M. Christian, quand j'avais endommagé la voiture, il me dit, mais vous savez, M. Go, une voiture, ça sert aussi à ça, ne vous inquiétez pas. Moi, ça m'avait rassuré. Mais enfin, bon, n'en profitez pas pour... Mais vous êtes d'accord avec moi? Je ne sors pas du sujet. On veille sur ses biens. La voiture, elle vous appartient. Béni soit le Seigneur. La maison, elle vous appartient peut-être aussi. Béni soit le Seigneur. Mais votre âme, elle ne vous appartient pas. Vous savez, dans Luc 12, on va le lire pour les nouveaux. C'est sérieux. Car si Dieu a permis que vous soyez là ce matin pour une des premières fois, Dieu le savait. Et il m'a peut-être inspiré pour vous qui venez pour la première fois, qui ne vous occupez pas de votre âme, qui peut-être être très sévère avec Dieu, très sévère avec la religion, très sévère avec les choses spirituelles. À la place d'être sévère avec Dieu, soyez sévère avec vous-même. Luc chapitre 12. Jésus était en train de prêcher, il y a quelqu'un qui a eu une drôle d'idée. Comme quoi, voyez, mais ça ne change pas. Les gens qui s'approchent de Dieu juste pour leur intérêt financier, ça ne change pas. Luc 12, 13, quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, quelqu'un me disait dernièrement, « Ah, moi j'aimerais bien savoir comment étaient les gens du temps de Jésus. » Eh bien, ils étaient comme nous, pareil. Ils n'avaient peut-être pas les mêmes ordinateurs que nous, mais je peux vous dire une chose, ils avaient le même caractère que nous, croyez-moi. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il fallait oser le faire, ça. Hein? Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas juge un jour. Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance ?» Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je? Car je n'ai pas assez de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, voyez, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais, voilà, c'est le mot qui... Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en sera ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voyez? Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cet homme avait eu, comme beaucoup de gens parmi nous d'ailleurs, la joie de réussir. C'est un homme qui a réussi dans la vie et qui a échoué pour son âme. Combien sont là? Combien de gens réussissent matériellement, financièrement, socialement? Et c'est très bien, c'est, en plus, ça fait quand même partie de la volonté de Dieu. Mais voilà, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi ça servirait? Vous vous rendez compte, Jésus va loin dans l'image. Le monde entier, une âme est plus importante que le monde, parce que le monde passera, il sera détruit. Tandis qu'une âme, elle, elle est éternelle. Le mauvais riche fait partie du même cas de figure. Un homme qui, bien sûr, pour Dieu, il était habillé de fin lin, c'est-à-dire qu'il représente, il donnait quelques miettes pour se soulager la conscience. Il donnait quelques miettes aux pauvres en disant, bon, je fais un truc pour Dieu, une petite bonne action, avec les œuvres, ça devrait gazer. Eh ben, ça n'a pas beaucoup changé, je vous dis. Ça n'a pas changé. Les gens qui s'imaginent qu'en faisant des œuvres, ça va leur ouvrir la porte du ciel. Ça ne change pas. Ils pensaient que c'est pas ce qu'on pense qui est important. C'est ce que Dieu dit. On l'a lu. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. La vie d'un homme dépend de sa communion avec le Seigneur Jésus. Vous entendez, mes frères et sœurs, vous qui découvrez l'Évangile, les enfants qui sont encore là, plus l'école dimanche n'a pas encore reprise, vous les ados qui êtes là, les aînés, vous, les jeunes qui dites, moi, je me convertirai au soir de ma vie, le soir. Mais t'en sais rien si t'arriveras au soir. Je discutais hier avec une sœur de l'église qui me disait qu'un de ses locataires s'est tué avec sa grosse BMW, 32 ans. Vous voyez? Peut-être lui, il disait, ben, le soir, et ben, il est mort dans le matin de sa vie. Voyez, ou en début d'après-midi. Qui sait si nous arriverons au soir de notre vie? Personne ne le sait. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Par contre, si ça va pas, ça peut se présenter. Que votre maison soit en ruine, ça peut arriver. Il faut lui demander de l'aide. Pas juste, c'est intéressant ce qui est dit ce matin. C'est sérieux ce qui dit Monsieur Gault. Ça va plus loin. Si ça ne va pas, nous avons un Dieu qui va vous aider. Vous le savez. Il peut restaurer votre âme. Il peut le faire ce matin. Il peut vous aider à commencer à restaurer votre âme. Vous avez besoin d'aide? Est-ce que le Seigneur est capable de vous aider? Hein? Je pense, moi, aux jeunes qui viennent depuis des années. Certains, vous venez depuis des années, et vous n'avez pas encore choisi de vous repentir, choisi de vous convertir. Vous suivez en espérant qu'en suivant, eh bien, peut-être vous allez passer dans le sillage à l'enlèvement. Voyez? L'appel d'air. Je plaisante, mais franchement, c'est beaucoup plus grave ce qu'on pense. Je dis ça pour les gens qui s'imaginent. Oh, mais une femme, un jour, m'a dit, moi, mon mari, il est chrétien. Je suis sanctifié par ma femme. Ah bon? J'ai dit, vous avez lu ça où? Dans la Bible. J'ai dit, je peux vous le lire aussi. Vous savez, c'est dans les Corinthiens, où il y a un texte qui s'adresse aux sœurs qui ont un conjoint inconverti, et ce texte s'applique aux relations physiques dans le couple, que si une chrétienne dont a des relations physiques avec son mari qui est inconverti, elle n'est pas souillée parce que c'est un païen. C'est ça que ça veut dire. Mais en arriver à déduire, c'est drôle comme il y en a des gens qui savent méditer, en arriver à déduire que parce que la femme est chrétienne, ou parce que maman est chrétienne, ou parce que papa est chrétien, eh bien je vais suivre dans l'appel d'air, laissez-moi vous dire que ça ne se présentera pas. Le salut, c'est quelque chose de strictement personnel. Et en tant que pasteur, je ne pense pas qu'aux chrétiens, je pense à nos ados, à nos enfants, et à vous parents qui êtes en train de couver ou d'avoir des petits, combien je voudrais vous encourager à vous occuper, à veiller sur l'âme de vos enfants. Et de pouvoir faire cette prière, Seigneur, restaure mon âme. Si ce n'est pas le cas, ça va le devenir. Qui a besoin d'être restauré? Qui ne s'est pas encore occupé de son éternité? Oui, mais moi, je suis chrétien. Il y a des gens, des fois, ils me demandent le baptême pour avoir une espèce de carte d'entrée. Je dis, mais ce n'est pas parce que vous êtes baptisé que vous allez être sauvé. Les gens, ils pensent que parce qu'ils sont baptisés, ils sont sauvés. On n'est pas baptisé, on n'est pas sauvé parce qu'on est baptisé. Mais parce qu'on est sauvé, parce qu'on est passé par la repentance et par la conversion, on a l'assurance du salut et on a besoin de s'engager dans les eaux du baptême. On en a besoin. Quelqu'un qui est sauvé, il a vraiment envie de s'engager dans les eaux du baptême. Mais il y a des personnes qui s'imaginent qu'en prenant le baptême, elles vont être sauvées. Et ça, c'est quand même quelque chose de grave et de solennel. Et ça abîme énormément l'Église si on commence à introduire dans le royaume des gens qui ne sont pas passés par la conversion. Si vous n'avez pas cherché Dieu, cherchez-le. Cherchez son pardon. De quoi avez-vous besoin? Que Dieu s'occupe de votre héritage plus tard? Non, vous avez besoin du pardon de vos péchés et du salut de votre âme. Et si vous n'êtes pas passé par la repentance et par la conversion, vous êtes concerné par cette affaire. C'est la chose la plus importante à régler sur la terre. Si vous n'avez plus de communion avec Dieu, c'est également la même chose. C'est la chose la plus importante à faire, à vous occuper de faire en sorte que votre âme soit restaurée. Quand est-ce que notre âme a besoin d'être restaurée? Il y avait une famille qui me disait, moi vous savez, monsieur Gault, je ne les avais pas vus de tout l'été. Et je leur ai dit, tiens, vous étiez ma grande. Non, mais nous, vous savez, juillet, août, c'est les vacances. On reviendra en septembre, mais moi, le dimanche, c'est la mer, c'est la plage. J'ai dit, mais faites. Nous, c'est important, les vacances. Bon, les vacances, c'est important. Mais vous ne croyez pas quand même que veiller sur son âme, c'est plus important que les vacances? Est-ce que ce foyer avait besoin d'être restauré? Eh bien oui. Il faut donner quelques idées. Si votre relation avec Dieu est comme celle que je vous parlais avec un certain voisin, votre âme a besoin d'être restaurée. Si la prière est un fardeau, si ouvrir votre Bible, j'ouvre ma Bible, parce qu'il faut lire la Bible quand même, je suis chrétien, donc je lis ma Bible. Oui, je la lis. Oui, je l'ouvre. C'est merveilleux. Oui, j'aime lire la Bible. Si la prière, si lire la Bible est un fardeau, moi je vous dis que votre âme a besoin d'être restauré. Alors, je le dis, ça a fait sourire quelques-uns, mais c'est quand même grave, vous comprenez bien. C'est des choses avec lesquelles on ne peut pas rire. C'est une petite note d'humour, acceptez-la quand même. Mais vous comprenez que si c'est une corvée d'ouvrir votre Bible, votre âme a vraiment besoin d'être restaurée. Si quand je prie, bon, ça peut arriver, ce matin ça m'est arrivé pendant 5 minutes, je priais, et puis tout d'un coup je me suis mis à penser à autre chose. Ça vous arrive? Bon. Mais si toute la prière, tout votre temps de prière, vous êtes tout le temps en train de penser à autre chose, là, il y a un truc qui ne va pas. Si je prie 5 minutes et qu'au bout de 5 minutes, j'ai l'impression d'avoir prié demi-heure, c'est que là aussi, je pense que mon âme a besoin d'être restaurée. Si le temps que je donne à Dieu diminue de plus en plus, ce sont des indices, ça. Quand vous allez faire un bilan de santé, moi, quand j'ai eu mes problèmes d'hypertension, le docteur m'a posé toute une série de questions. Et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous mangez? Combien d'heures vous travaillez? Ça paraissait... Mais à la fin, ça tenait debout, vous voyez. Et j'ai compris certaines choses. Et les questions que je vous pose, c'est pour le salut de votre âme. Et si je vous pose certaines questions, c'est sérieux. Et si je vous pose la question, si le temps que vous donnez à Dieu diminue de plus en plus, vous avez besoin de vous occuper, de restaurer votre âme. Si vous autorisez à appeler encore le Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, et qu'il ne gouverne plus votre vie, ça peut arriver aussi. Jésus l'a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume. Et ce n'est pas parce qu'on appelle Jésus Seigneur qu'il gouverne. Mais si vous appelez le Créateur du ciel Seigneur et qu'il ne gouverne plus rien du tout, votre âme a besoin d'être restaurée. Alors c'est clair que quand on lit la Bible, vous allez être profondément rassuré. Parce que quand vous lisez la liste des âmes brisées, vous allez être étonné. J'en ai rapporté quelques-unes. L'âme brisée, l'âme souffrante, l'âme desséchée, l'âme languissante, l'âme errante. Fait allusion à tous les cas de figure qui peuvent se présenter. L'âme pleine d'amertume, l'âme nonchalante, l'âme affamée, l'âme abattue, l'âme découragée, l'âme souffrante, l'âme altérée, l'âme dégoûtée, l'âme attachée à la poussière, l'âme dans la détresse, l'âme ébranlée. Et il y en a même un qui a dit « Mon âme est morte ». Et David a dit « Mon âme pleure de chagrin ». Vous voyez que ça peut arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut arriver que notre âme soit affligée parce que la vie est un combat. Et qu'il ne faut pas dire, voilà, si votre maison est en ruine, ah, c'est fichu, ça y est, c'est fichu. Non! Il est écrit que le Seigneur est le réparateur des brèches. Et on peut le lire avec moi dans Ésaïe 58. Je voudrais terminer avec un encouragement à ceux qui, quand ils regardent la maison intérieure, disent, ouais, ma maison, elle est en ruine. Eh oui, ça peut arriver. On n'est pas là pour vous condamner. Vous le savez, la porte est ouverte. Le royaume de Dieu est encore ouvert. Les bras du Seigneur sont ouverts. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Vous êtes d'accord? Ésaïe 58, mais ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec la patience de Dieu. Elle a des limites. Ésaïe 58, verset 12. Regardez comme il est beau ce verset. Je me suis régalé hier à le lire pour tous ceux qui en auront besoin ce matin. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça fait longtemps que ça dure, vous voyez. Vous êtes d'accord avec moi? rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins. On peut dire merci Seigneur. Voyez, le Seigneur, il n'est pas apeuré lorsqu'il voit l'état de votre maison spirituelle. Peut-être que les ruines sont anciennes. Il y a peut-être malgré votre présence, comme la prophétie le disait tout à l'heure, quelqu'un qui est là depuis des années et qui ne s'occupe plus de son cœur, qui ne prend pas garde. Voilà, c'est ça les anciennes ruines. Quelqu'un qui vient depuis des années, qui écoute la parole de Dieu, qui est content malgré tout parce qu'on est dans une église sérieuse, il faut dire les choses comme elles sont, mais qui laisse sa maison en ruine et qui dit « Oh, c'est peut-être pas grave, on est dans une assemblée bien, c'est sérieux. » Et non, ça va pas. Ça va pas. Si votre maison est en ruine, vous n'allez pas bien. Et vous pouvez être en contact avec des gens qui vont bien. C'est pas pour ça que Dieu dit, bon, ben, on les met tous ensemble. On va faire un groupage, hop, à Sainte-Agne, à l'enlèvement. Ça sera comme ça. Non, vous le savez que c'est individuel. Les anciennes ruines, Dieu peut s'en occuper. Alléluia.
Alléluia.
Peut-être quelqu'un dit, ah, mais ça, c'est vraiment pour moi, les anciennes ruines. Tiens, la maison, il y a longtemps que c'est écroulé. Est-ce que Dieu peut m'aider? On ne le chante pas, Dieu peut tout, n'importe où. Est-ce que Dieu peut vous aider? Bien sûr, regardez dans Isaïe 61, cet autre texte. C'est écrit. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce ce matin à ceux qui sont en ruine. Leur vie spirituelle est peut-être ruinée. Regardez le verset 4. Isaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées, depuis longtemps. Voyez, le Seigneur n'est pas impressionné. Vous croyez que le Seigneur ne sait pas quoi faire? Il le sait. Mais voilà, si Dieu est capable de vous aider, s'il veut, Dieu est capable de restaurer votre foyer, restaurer votre entreprise, restaurer votre maison, je ne sais pas. Dieu est-il capable de nous donner dans tout? Oui, quelle que soit la ruine. Ces deux textes qu'on vient de lire nous montrent que quelle que soit la ruine, Dieu est capable de la réparer. Et vous pouvez dire amen. Parce qu'on peut ressortir tout à l'heure le cœur fortifié, dire « Seigneur, tout est par terre !» Vous n'êtes jamais passé devant des maisons, dans la campagne, où tout est par terre. Vous n'avez jamais vu, et des fois vous repassez quelques années après, elle a été entièrement restaurée, ou alors elle est toujours en ruine. C'est pas vrai? Dans quel état est votre âme? Pensez à une maison et identifiez-vous à l'état d'une maison. Où il n'y a plus rien. Vous savez, les maisons, on voit, on passe une année, paf, la cheminée est tombée. Vous avez vu, les maisons, il n'y a pas de cheminée. Passé quelques années après, il manque des tuiles, et puis une poutre est tombée, on le voit. Il manque une fenêtre, les arbres poussent. Il y a des chrétiens, ils en sont là. Leur âme est complètement dévastée. Mais n'avons-nous pas célébré un Dieu qui a tout accompli? Un Dieu qui a le pouvoir. Son âme, à lui, tiens donc, l'âme de Jésus. Elle n'était pas triste à Gethsémané? On a parlé de nos âmes affligées, desséchées, assoiffées, etc. Mais parlons quand même, pour conclure, avant de prendre le pain et le vin, parlons de l'âme de Jésus qui a dû dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Voilà. Voilà quand même ce que Jésus a dû faire. Lui, le Seigneur de l'univers, le Créateur du ciel, on l'a chanté tout à l'heure, de son trône de clarté, de son ciel de pureté, il est descendu. Il est descendu pourquoi? Et pour que nos âmes soient vivantes et restaurées, désaltérées et rafraîchies. Voilà pourquoi il est venu Jésus. Mais lui, il a failli mourir dans le jardin de Gethsémané. Vous le savez qu'il a failli mourir. Quand il a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort », il a failli mourir. Mais il voulait aller jusqu'au bout. Et il a été jusqu'au bout. Et il nous a amené la victoire sur le bois de la croix. La victoire pour qu'on puisse passer des ténèbres à la lumière, pour qu'on puisse aller au paradis. Parce que si on ne s'occupe pas de son âme, je pense que vous avez quand même tous compris qu'un homme qui ne s'occupe pas de son âme finira en enfer. Et ne dites pas « Dieu est amour, moi j'y crois pas cette histoire ». Vous savez, il y a des hommes dans notre pays, des religieux même, qui ont été célèbres parce que, je pense à un certain homme religieux qui a été un des hommes les préférés des Français quand il y a les fameux sondages, ah mais c'est clair, quand on lui a posé la question sur « l'enfer existe-t-il », il a dit « mais voyez donc, un Dieu grand et plein d'amour comme le nôtre ne peut pas avoir conçu l'idée même de l'enfer ». C'est sûr qu'après, dans les sondages, ces gens-là soient appréciés. Mais moi, je vous le dis, je n'ai pas besoin, moi, de sondage. Moi, je vous le dis, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer. Et les chrétiens qui ne veillent pas, vous risquez de passer mal. Alors c'est pour ça que ce matin, nous savons qu'au calvaire, Jésus a tout accompli. Il a été jusqu'au bout. Oui, son âme a souffert. Son âme a souffert vraiment quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre. Et il a payé pour que toutes les brèches puissent être réparées. Pour que tous les affligés puissent être guéris. Mais voilà, écoutez bien maintenant. Je vous expliquais comment une âme pouvait être en ruine. Vous devez savoir dans quel état est votre âme. Vous savez que vous avez un Dieu qui restaure toutes les situations, votre maison serait-elle en ruine totalement. Mais Dieu a besoin de votre collaboration. Vous entendez? Il ne faut pas dire « youpi, c'est bien ». Il faut dire « qu'est-ce qu'il faut faire ?» Si vous êtes nouveau, que vous n'êtes pas encore baptisé, repentez-vous, convertissez-vous, demandez-lui pardon et vous obtiendrez le pardon de vos péchés. Si vous êtes chrétien, on va lire dans un psaume ce qui s'est passé. Ils l'ont fait. Leur âme était dégoûtée. Leur âme était malade. Et ils l'ont fait. Je vous encourage peut-être même tout le long de cette semaine à méditer le psaume 107. C'est un psaume qui indique ce qu'il faut faire lorsque notre âme est malade. Le psaume 107. Lisez-le. C'est un grand psaume. Je pense que bon, tous les psaumes sont grands, bien sûr. Mais quand même, c'est un psaume qui enseigne tellement de choses. Regardez. Ça n'allait pas du tout. Alors, on va lire quelques versets. Marquez-les sur un papier, que dans votre culte personnel, vous puissiez vous appliquer. C'est ça, veiller sur son âme tous les jours. Psaume 107, verset 4. Voyez, ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Le résultat, c'est pas fait attendre. Leur âme était languissante. Voilà le topo. Verset 6, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Alléluia. Voyez, il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel. Verset 9, il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Ça n'a pas duré longtemps. Verset 12, il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Verset 18. Leur âme, regardez bien, leur âme, vous voyez leur âme, avait en horreur toute nourriture. Comment vous aimez la nourriture spirituelle? Tiens donc, ce matin on est en train de prendre un repas. D'accord? Oui? Vous êtes en train de prendre un repas spirituellement? Est-ce que vous aimez la nourriture spirituelle? Ou est-ce que vous dites, moi, les prédications, ça suffit? D'ailleurs, c'est déjà un peu long. Non? Le repas est trop long? Oui? J'arrête. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Ils touchaient aux portes de la mort. Oui, ça va loin quand on commence à négliger la nourriture spirituelle. Dans leur détresse... Il est patient, le Seigneur. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Voyez, par la parole ce matin, Dieu peut vous guérir. Voyez. Verset 26. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue. Voyez, on en a des problèmes avec notre âme. Hein? Leur âme était éperdue en face du danger, saisie de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Vous pouvez dire Alléluia. D'avoir un Dieu qui, quand notre âme erre, est languissante, affamée, altérée, misérable, ruinée, nous n'avons pas un Dieu qui dit « ça suffit, maintenant vous avez été trop loin ». Il dit encore ce matin, mes bras sont ouverts, criez à moi et je vous restaurerai. Parce que la bénédiction passe incontournablement par la prière. Seigneur, restaure mon âme. Pas une prière du bout des lèvres, c'est vrai. Je réalise que ça va pas trop, la maison elle commence à s'effondrer. Bon, ben, écoute, c'est comme ça. Non, criez au Seigneur. Crier, ça ne veut pas dire qu'il faut parler fort. C'est ridicule ça. Crier, ça veut dire que la foi est plus forte que le doute. Vous comprenez, c'est ça, la crier à Dieu. Quand Anne priait dans le temple, vous ne croyez pas qu'elle criait à Dieu? Elle faisait que remuer les lèvres. Mais son cœur criait vers Dieu et Dieu l'a exaucé. Crier, il y a des églises où on crie.
Je trouve que, bon, moi, ça ne me convient pas. C'est pas ça. C'est pas parce qu'on crie que notre foi est plus forte. Sinon, il aurait dit, allez-y avec les décibels. Non, le cri, c'est, Seigneur, ce que tu dis, c'est plus important. Ma foi sera plus forte que tous mes raisonnements. Ils ont crié à Dieu. Et leur âme a été restaurée, leur âme a été guérie, leur âme en ruine a été réhabilitée, et ils ont terminé la course. Et regardez comment termine le psaume, parce que c'est quand même important de terminer en regardant ce qu'il faut faire une fois qu'on a été restauré. Le psaume 107, voyez, regardez au 41, « Mais il relève l'indigent et le délivre de la misère. » Vous voyez, c'est ça qui est beau. Nous, on l'a dédaigné, mais lui ne nous dédaigne pas. Verset 43, « Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. » Et on n'a pas lu le psaume en entier, mais vous remarquerez, on peut le faire, regardez, à partir du verset 2, « Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. » Voyez, on peut lire verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 21. Après ses aventures, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Après l'autre affaire, verset 31. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple, qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Voyez, être attentif aux bontés de l'Éternel. Si vous voulez veiller sur votre âme, soyez attentif aux bontés de l'Éternel. C'est une grâce d'avoir pu venir dans un lieu de culte ce matin. Est-ce que c'est une bonté de Dieu? Ou est-ce qu'il faut venir parce qu'en venant, je suis chrétien, donc je suis, si je viens, donc je dois être bien? Moi, je dis que c'est une bonté de Dieu de pouvoir venir dans la maison du Seigneur. C'est une bonté de pouvoir regarder, je ne suis pas superstitieux, mais de regarder une table où on sait que dessous il y a les emblèmes qui nous permettent de comprendre que Dieu n'a pitié de nos ruines et qu'il peut guérir chaque ruine. C'est le plus grand maçon de l'univers, le Seigneur. S'il construisait lui des maisons, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas de fissures, ça c'est sûr. Bon, enfin, vous verrez au ciel. Vous verrez. Est-ce que vous croyez qu'il faut se réjouir pour les bontés du Seigneur? Mes frères et sœurs, vous qui découvrez l'Évangile, les ados, les enfants, n'attendez pas. Vous êtes en âge de vous repentir, vous êtes en âge de vous convertir. Est-ce qu'on peut fermer les yeux quelques instants? Est-ce que vous voulez veiller sur votre âme? Dans quel état est votre maison spirituelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais moi j'ai besoin, Monsieur de Dieu Norbert s'il vous plaît, vous pouvez choisir quelques frères? Recueillez-vous, répondez à cet appel, répondez à l'appel du Seigneur. Vous avez entendu la trompette d'argent, bien imparfaitement peut-être. Vous savez, dans une trompette, il peut y avoir quelques fausses notes. Il peut y en avoir eu quelques fausses notes, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Repentez-vous, convertissez-vous, donnez votre vie à Dieu. Votre âme ne vous appartient pas. Oui, votre maison vous appartient, votre voiture vous appartient, votre ordinateur vous appartient, mais votre âme ne vous appartient pas. Elle est à Dieu, il peut vous la redemander dans le soir de votre vie, dans l'après-midi de votre vie, dans le matin de votre vie. Alors qui, ce matin, donne son cœur à Jésus ou redonne son cœur au Seigneur et dit « Seigneur, oui, je veux que tu restaures mon âme ». Quel idiot j'ai été de citer le psaume 23, d'aimer ce psaume 23 et de même pas veiller. Quel aveugle j'ai été, quel insensé j'ai été d'aimer ce psaume alors que je prends même pas le temps de restaurer ma maison spirituelle. Que ce moment soit un moment de victoire. Le Seigneur ne nous a pas donné cette prédication pour nous accabler. Le Seigneur il nous a donné cette prédication pour nous montrer qu'il est le réparateur de toutes les ruines. Quel que soit, il manque qu'une tuile, eh bien c'est bien, ça sera vite réparé. Il manque la moitié de la toiture, ça vous demandera un peu plus de temps. Mais prenez le temps qu'il faut. Prenez le temps qu'il faut pour réparer votre maison. Prenez le temps. Mon frère, ma sœur, jeunes et vieux, les adolescents, si vous êtes de passage ou les nouveaux, écoutez la trompette d'argent. Dieu te dit, veille, veille sur ton âme. Veille attentivement sur ton âme, car si tu ne veilles pas, ces choses sortiront de ton cœur. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je voudrais faire un appel juste pour ceux qui n'ont pas encore été amenés aux eaux du baptême. Ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, les enfants, les ados, les nouveaux. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi je veux commencer à m'occuper de mon âme, j'ai pas fait attention qu'elle m'appartenait pas, j'ai même pas fait attention que j'en avais une. Mais puisque ce Dieu qui s'intéresse à moi, il m'a parlé ce matin, eh bien je vais commencer à m'occuper de mon âme et il va vous aider. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever et dire, moi je veux donner ma vie à Jésus. N'ayez pas honte, on est tous des yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un qui dit, moi je veux m'occuper de mon âme ou je veux me réoccuper de mon âme. Levez-vous, je prierai pour vous. C'est sérieux, c'est un appel qui vient de Dieu, c'est pas moi. Je crois que c'est la première fois que je fais un appel avant la Sainte Cène. Y a-t-il quelqu'un qui se sente concerné, qui dit, je veux m'occuper de mon âme aujourd'hui. Je veux m'en occuper. C'est sérieux le salut. C'est entre vous et Dieu. Vous ne pourrez pas dire un jour à Dieu qu'il ne vous a pas parlé, qu'il ne vous a pas dit, veille sur ton âme. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Levez-vous. Levez-vous à votre place, à moins que vous soyez épuisé pour vous lever, rester assis. Y a-t-il quelqu'un qui dit, oui, je suis dans ce cas, ma maison s'est effondrée, mais je sens l'amour de Dieu qui va m'aider à remettre pierre après pierre. Oui, il y aura votre collaboration. Qui veut aller dans le ciel, dans le paradis? Qui veut avoir sa vie, son nom inscrit dans le livre de vie? Levez-vous, et même les chrétiens, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte de vous relever si vous êtes concernés. N'ayez pas honte, vous savez, on est tous pareils. On a tous eu des moments où l'âme était fatiguée, desséchée. N'ayez pas honte. Dieu va voir votre acte de foi et va vous aller et vous allez vous appliquer et votre âme sera restaurée. Et quand vous direz, oui, mon âme, maintenant, elle est restaurée. Sentez-vous libre, c'est solennel. Votre éternité dépend peut-être de ces quelques minutes. Aujourd'hui, là, 21 août 2011, votre éternité est peut-être en train de se jouer maintenant. M'en voudriez-vous d'insister, de vous supplier, de vous réconcilier avec ce Dieu qui vous aime, qui a eu son âme triste jusqu'à la mort, pour que la vôtre soit joyeuse pour l'éternité? Oui, je ressens dans mon cœur que plusieurs chrétiens ont encore besoin de faire un acte de foi. Vous allez prendre une décision, comme ils l'ont fait dans leur détresse. Ils crièrent, et l'Éternel les délivra. Ah, qu'il est bon le Seigneur. Il n'a pas dit à la dixième fois, non, là, ça fait 10 fois, ça ne va pas, vous vous moquez de moi. Il les a bénis. Je vais prier pour ceux qui se sont levés. Et je crois que Dieu honorera votre foi, non pas ma prière, mais votre foi. Combien je sais que plusieurs, vous pouvez passer d'une maison détruite à une maison restaurée en quelques jours, car avec Dieu, il restaure vite. Le Seigneur, quand on pardonne, vous avez vu, de suite, il délivre. Alors ne vous moquez pas de votre âme. Je le répète, elle ne vous appartient pas. Votre âme, Dieu vous l'a donnée. Elle ne vous appartient pas. Dans quel état sera-t-elle le jour où il vous la redemandera? Y a-t-il encore quelqu'un qui dira, ah, c'est mon tour de me lever. Il faut que je me mette à veiller sur mon âme. Ah, il faut que je m'y applique. Il faut que je m'organise. J'arrive à prendre une heure pour aller faire un jogging. Eh bien, j'apprendrai demi-heure pour m'occuper de mon âme. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est ça, crier à Dieu et le faire. Et Dieu qui le voit, vous restaurera et vous guérira. Seigneur Jésus, oui, tu restaures nos âmes. Oui, tu relèves les ruines, qu'elles soient même antiques et dévastées depuis longtemps. Il n'y a que toi qui pouvais nous dire des choses pareilles. Dans ton amour infini, tu relèves les fondements antiques. Et tu vois celui qui ne s'est pas occupé de son âme depuis des années, tu vas l'aider, Seigneur. Puisque dans son cœur, il crie vers toi. Ensemble, l'Église, nous te prions pour que tu l'aides à s'occuper de restaurer son âme de la manière la plus consciencieuse qui soit, de la manière la plus attentive qui soit, et qu'il puisse aussi te louer. Oui, Seigneur, merci d'avoir accepté d'être triste jusqu'à la mort pour que nos âmes soient joyeuses pour l'éternité. Merci, Jésus. Tu es assis sur ton trône et tu règnes et tu vois ce culte à Toulouse. Tu vois cette réunion ici. Fais grâce à tous ceux qui sont en train de te donner leur cœur. Fais grâce à tous ceux qui sont en train de te demander pardon et que ce pardon soit scellé, que ce salut soit scellé dans leur esprit. Oui, tu es un Dieu qui restaure et nous t'en sommes reconnaissants. Merci Jésus.